Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Le poète a dit quel serait l'avenir de l'homme. Sera-t-elle l'avenir de la SF ? Aujourd'hui, je vais vous parler de la place de la femme dans la science-fiction. Le hasard ou le talent a voulu que le premier livre de SF, même si on ne le nommait pas ainsi à l'époque, a été écrit par une femme. Il s'agit du roman Frankenstein, ou le Prométhée moderne, qui est publié en 1818. Il raconte l'histoire, entre autres, de Victor Frankenstein, qui donne vie à une créature constituée de morceaux récupérés sur des cadavres. Mais cette étincelle ne va pas vraiment donner naissance à un mouvement de fond. À l'époque, une femme qui écrit, ce n'est pas fréquent. Elles étaient souvent éclipsées par un homme qui s'en servait comme prête-plume. Si les autrices ont eu plus droit au chapitre dans la seconde moitié du XXe siècle, la représentation de la femme en général dans la SF n'a pas forcément été très progressiste. Autre temps, autre mœurs, pourrait-on dire. Mais pour un domaine où la prospective est reine, la place de la femme aurait gagné en évitant les poncifs de l'époque. Dans les années 50, le personnage féminin était au choix une potiche, une faible créature attendant d'être sauvée par le héros, ou un faire-valoir juste là pour flatter l'ego du héros et par glissement celui du spectateur mâle. Le premier personnage féminin qui tient le rôle principal, c'est Barbarella, de Roger Vadim, sorti en 1968. Là, l'héroïne est hyper sexualisée, mais maîtresse de ses choix. Ça avance, mais c'est pas encore le top. En 1979, une série fera preuve d'un machisme éhonté, Buck Rogers au XXVe siècle. Certes, l'œuvre originale date de 1928, mais quand même, une mise au goût du jour n'aurait pas été trop. La preuve que les esprits commencent à changer, en 1977, on voit apparaître un personnage féminin qui ne s'en laisse pas compter. Un personnage qui peut paraître faible, mais qui va se révéler combatif et charismatique. La princesse Leia. Et au fil des épisodes 4, 5 et 6, on pourra la voir se débattre et se battre comme quoi les princesses n'attendent plus forcément que le prince charmant arrive sur son blanc destrier. Les premiers opus de la saga Terminator nous montreront une femme forte, qui certes au départ subit les événements, mais qui se découvrira des capacités de combattante qu'elle n'aurait jamais soupçonnées. Autre femme qui va incarner une saga, Ellen Ripley, dans Alien. On la verra s'endurcir au fil de la saga et combattre un ennemi qui deviendra de plus en plus intime. À la fin des années 90, la place des femmes commence à s'améliorer dans la SF. Les autrices sont de plus en plus visibles, même si le genre reste majoritairement masculin. Dans les années 2000, les héroïnes se font plus nombreuses. Katniss Everdeen dans Hunger Games, Béatrice Prieur dans Divergente. Vous me direz que ce n'est que de la littérature pour ados. Oui, il faut bien commencer quelque part. Et habituer les lectrices et les lecteurs à des personnages féminins leaders dès leur jeune âge est quand même une bonne chose. Et consécration, entre guillemets, une des plus grandes franchises de SF au cinéma a mis une héroïne au premier plan. Rey est le personnage principal des Star Wars 7, 8 et 9. Si on passe outre la qualité de cette post-logie, le symbole est fort. Signe que quelque chose bouge peut-être, en espérant que ce ne soit pas juste une mode. Et pour parler de l'ASF au féminin, j'ai avec moi des autrices qui vont faire part de leurs ressentis et de leur expérience. La première invitée, il s'agit de Myriam Cayonneau. Myriam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une ancienne militaire.
Exactement.
On peut savoir la fonction ou c'est secret ?
Non, c'est pas secret, j'étais informaticienne dans l'armée de terre.
Et depuis 2016, vous vous êtes mise à plein temps dans l'écriture.
Alors, j'ai commencé en 2016 à écrire, tout en étant toujours militaire. Et en 2019, j'ai, euh, J'ai pris ma retraite pour me consacrer à l'écriture.
Et vous avez un genre de prédilection ?
Alors, j'aime l'imaginaire en général, mais c'est vrai que j'ai commencé par la science-fiction et par un space opéra qui me permettait de créer un univers, de créer un monde et également de me servir de mon expérience militaire pour mettre en situation une dictature religieuse et militaire. Donc voilà, je voulais traiter ce sujet-là et traiter l'armée d'une façon moins caricaturale que dans beaucoup d'histoires.
D'accord. Charlotte, bonjour.
Charlotte Bonnard, bonjour.
Vous écrivez depuis 2012, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et vous, votre domaine de prédilection, c'est plus un domaine précis ou c'est plus vague ?
En écriture. Moi, c'est la science. Enfin, comme Myriam, j'aime tout l'imaginaire, mais en écriture, pour l'instant, c'est essentiellement de la science-fiction, pour les romans et les nouvelles.
Okay. Il y a autre chose que vous écririez plus que de la SF ou resteriez dans la fantasy ou le classique, entre guillemets ?
Mon quatrième roman, qui est aux mains de mes bêta-lectrices, est du fantastique breton. Mon cinquième roman en cours d'écriture est du thriller, mais mon septième sera du steampunk. Donc je reviendrai à la science-fiction par ce biais-là.
D'accord. Oui, c'est très vaste.
Mon écriture reflète mes lectures, c'est-à-dire que je suis très éclectique. J'aime tout. Dès que c'est bon, voilà, je lis. Donc pour l'écriture, j'ai envie d'aller sur tous les domaines aussi.
Très bien. Anaïg Le Quellec, bonjour.
Bonjour.
C'est depuis toute petite que vous êtes intéressée par l'imaginaire, on va dire.
Oui, tout à fait.
Et vous avez écrit déjà quelques nouvelles ou quelques livres ?
J'ai écrit quelques nouvelles de science-fiction, ainsi que deux romans jeunesse, mais qui sont du coup en cours de correction. Alors un petit peu comme Charlotte ici présente, c'est vrai que je touche un petit peu à tous les styles. Mais jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai écrit plutôt dans le domaine adulte, sans trop savoir pourquoi, je suis partie vers la science-fiction.
Laurence Desclos, bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs de Radio Évasion vous ont déjà entendu cet été.
Oui.
Je rappelle quand même à nos auditeurs que vous êtes professeur d'histoire-géographie
sur
Quimper et vous avez écrit Merveilleux Chimère.
Oui, qui est un roman steampunk. Et là, je suis en train justement d'écrire une suite à Merveilleux Chimère, donc au-delà du dôme, en restant, je vais dire que ça reste du steampunk, mais je le fais évoluer dans une atmosphère plus les années 20.
D'accord.
Voilà. Donc on quitte l'art nouveau pour l'art déco. Et voilà, puis les personnages ont aussi évolué puisqu'ils ont 10 ans de plus. Voilà.
Et pour finir, nous avons Guillaume Volant.
Bonjour Rémi.
Bonjour Guillaume. Qui m'a aidé en partie à écrire la trame de l'émission. On va dire.
En effet, ouais, j'avais commencé ces recherches sur le net avant le premier Finistère. Donc, du coup, je les ai communiqués en amont de la préparation de cette émission pour ce que je trouvais que c'était assez complet. Ça permettait vraiment de. Oui, même peut-être. Peut-être toujours un peu trop comme...
Copieux, serait
copieux, ouais. C'est un peu dans mes habitudes. Et je trouvais que c'était un sujet important qui... moi, j'aime bien, en fait, voir la SF, en fait, comme un prisme sur lequel on pourrait poser n'importe... Enfin, comme un filtre, en fait, plutôt, sur lequel on pourrait faire passer n'importe quel sujet de société. Et le féminisme, le féminin, tout ça, on le retrouve hein, à travers de nombreuses autrices et de nombreuses œuvres de science-fiction. Et c'est important d'en parler.
Une première question qu'on pourrait qualifier de technique. Comment vous voulez qu'on vous appelle ? Auteureux, autrice, écrivaine, femme de lettres ou écrivain ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ou est-ce qu'il y a une formulation ?
Autrice.
Myriam ? Pas de prérequis, on va dire.
Voilà, mais je commence à m'habituer au mot autrice.
Moi, de mon côté, en fait, ma maison d'édition voulait faire des cartes de visite et m'avait demandé ce que je préférais. Moi, j'ai choisi auteur avec un E, voilà, parce que du coup, c'était neutre. Et comme ça, on choisit pas. Et voilà, j'aimais bien auteur.
Anaïde ?
Alors moi, j'ai toujours utilisé autrice, notamment parce que je pense que le milieu et les autrices que j'ai fréquentées l'utilisaient. Du coup, c'est un mot qui a toujours été très naturel pour moi.
D'accord.
Ça m'a toujours beaucoup surpris, d'ailleurs, que ça rencontre une telle résistance chez certaines personnes, puisque bon, moi, c'est le mot que j'ai toujours utilisé et finalement que j'ai toujours entendu.
Moi, en préparant le Finistère, j'utilisais donc le terme autrice, persuadé que ça m'aurait été reproché et qu'on préférerait auteureux. Et au final, non, c'est vraiment rentré comme une lettre à la poste.
Oui, ça commence à s'implanter.
Ça devient ouais, c'est naturel.
Ouais. Alors, je suis une exception, je vais peut-être m'adapter.
Ah, non, mais après, chacun garde à ses choix.
Moi, j'utilise auteureux aussi, voilà. Mais je m'habitue, voilà, je m'habitue au
mot. Je vais avouer, c'est mon compte Instagram, c'est Charlotte Bona auteureux, et il faut que je pense à le changer en autrice, parce que voilà. Comme Myriam, au départ, j'étais un peu fâchée autrice, et je préférais auteureux, et au fur et à mesure, à fréquenter des femmes qui écrivaient, je me suis dit autrice, c'est très bien, et donc il faut que je change sur mon...
Après, il y a aussi le terme
profil Insta, mais
auteurice. Mais là, c'est encore
avec le point médian.
Pardon.
Et le point médian, c'est ça?
Non. Sans le point médian, c'est plus par rapport aux auteurs non binaires ou transgenres.
D'accord.
Voilà.
Okay. Chacun fait comme il veut.
Oui. Après, chacun choisit. Hein.
Du coup, il faut que j'écoule les cartes de visite.
Voilà, c'est ça. Et je voulais savoir si le fait d'être écrivaine ou autrice, on va partir là-dessus, autrice, ça a été bizarrement perçu en tant qu'autrice de SF, de fantasy ou de l'imaginaire.
Non, j'ai jamais ressenti ça. Pas particulièrement. C'est très, très rare qu'on me dise « Ah, vous êtes une femme ». Voilà, c'est... Ça a dû arriver peut-être une fois en dédicace. Mais pas.
D'accord.
Après, je pense que, moi, travaillant à l'école, en fait, hein, étant au collège et tout ça, en fait, on les incite de plus en plus à écrire. Et on a beaucoup, beaucoup qui écrivent. On a beaucoup de filles hein, qui écrivent, beaucoup de filles qui lisent énormément. Et c'est vrai que peut-être que là, la génération qui vient, ça se généralise énormément. Et finalement, il n'y a plus ces différences. En fait, écrire, c'est vraiment.
Je pense que les femmes écrivent beaucoup depuis longtemps. Dans le domaine particulier de la science-fiction et notamment de l'art d'SF ou du space opéra, je pense que là, on compte un peu sur les doigts de la main ou des deux mains les autrices.
Il faut attendre qu'elles grandissent.
Mais la SF reste, à mon sens, un bastion encore très masculin. C'est moins vrai pour la littérature anglophone, ça l'est pour la francophone, je pense.
Ouais. Alors, j'ai eu des retours négatifs ou pas.
J'ai jamais rencontré de résistance par rapport au fait que j'écrivais en science-fiction. Mm-hmm. C'est plutôt moi qui ai eu un petit peu la surprise. J'avais participé à un concours qui est le concours émergence mené par la charte des auteurs jeunesse. Mm-hmm. Et qui était presque surprise de trouver en fait dans le recueil final quantité de textes qui n'étaient pas de la science-fiction. Ou de la fantaisie, ou de l'imaginaire. Comme si, finalement, à force de lire de la science-fiction, de baigner dans un milieu d'imaginaire, j'avais presque oublié que non, tout le monde n'écrivait pas des nouvelles de science-fiction, de fantaisie et d'imaginaire. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de retour négatif là-dessus.
Bon. Signe que ça évolue quand même, j'ai l'impression. Quelques années encore, il y a 20-30 ans,
oui.
Je pense que ça aurait été compliqué.
Oui.
C'est pour ça que souvent, les autrices utilisent des initiales. Leur prénom. Il me semble. Après,
je pense que c'est plus vrai dans le monde anglo-saxon.
Oui. Il y en a eu beaucoup tout au long du XXe siècle en fait de femmes en fait qui masculinisaient leur nom, leur patronyme en fait pour de peur en fait que l'éditeur ne vende pas des histoires écrites par des femmes à destination d'un public, d'un lectorat masculin.
Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, peut-être questionner l'ouverture de l'univers geek ? Parce que c'est vrai que finalement, dans les années 80-90, il y a vraiment l'émergence du jeu vidéo notamment, qui semblait au début être assez masculin et en réalité qui s'ouvre vers les filles, hein. Et les filles aussi se sont mises à jouer aux jeux vidéo, se sont mises à lire des bandes dessinées, à lire les mangas et finalement à avoir aussi accès à ces univers-là qui jusque-là étaient peut-être principalement masculins. Je pense à l'univers du jeu de rôle aussi.
Dans un jeu en fait où tu pouvais choisir le sexe de ton personnage, par définition, tu pouvais très bien être un garçon qui jouait en fait un personnage féminin et inversement une fille qui jouait un avatar masculin. Donc c'est également en fait une forme d'ouverture en fait.
Il y a l'Observatoire de l'imaginaire en 2017 qui a quand même sorti des chiffres qui étaient pas très glorieux pour la littérature francophone, ouais, en imaginaire, sur la part des femmes, ouais, publiées. Alors, comme on ne sait pas quel est le pourcentage de femmes qui soumettent, on ne peut pas dire, par exemple, si les éditeurs n'éditent que 30% de femmes, oui, c'est peut-être qu'ils n'ont reçu de manuscrits que de 30% de femmes. Ça, on n'a, oui, pas, oui, ce chiffre. Mais néanmoins, quand on regarde les récompenses, hein, sur les principaux prix francophones en science-fiction et plus largement en imaginaire, il y a une sous-représentation des femmes. Et la comparaison a été faite avec la littérature anglophone et américaine en particulier, sur les prestigieux prix comme le prix Hugo. Les Américains, ils arrivent quasiment à 50-50. Hein. En France, on serait plutôt sur du 10-20, dans, ouais, le meilleur des cas, de femmes. Ça montre le problème, je trouve. Alors, on n'a pas toutes les données, on ne peut pas spéculer, on ne peut pas réfléchir, il nous manque des chiffres. Néanmoins, ça peut interpeller. Et les chiffres de l'imaginaire, c'est 2017. Donc, il y a 5 ans.
Oui. On a aussi un problème de catégorisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare que les femmes qui écrivent... Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour la science-fiction, c'est particulièrement vrai pour la fantasy, vont être très souvent classées en young adulte ou en jeunesse, et non pas en littérature adulte, alors qu'elles ont écrit des ouvrages qui étaient destinés à être lus par des adultes. Mais parce que ces ouvrages sont écrits par des femmes, il n'est pas rare qu'ils soient classés en littérature jeunesse. Et ça se ressent aussi dans les prix.
Parce que ce n'est pas forcément l'autrice qui va déterminer la catégorie dans laquelle...
Non.
D'accord. Bon, j'apprends des choses.
Non, non. Et ça, c'est, on a vu l'exemple avec des autrices américaines dont les œuvres ont été vendues dans le rayon young adult, donc c'est-à-dire en gros à partir de 15-16 ans. Et très honnêtement, pour en avoir lu certains, je n'aurais pas donné ces livres à lire à mes filles du même âge. C'est de la littérature adulte avec des thèmes adultes et des fois de la violence ou des scènes de sexe. C'est limite de mettre ça dans un rayon young adult. Mais c'est commercial.
On est dans le cliché, en fait. La SF, c'est pour les garçons et l'heroic fantasy pour les petites filles.
Est-ce que ce cliché, entre guillemets, est toujours d'actualité ou pas ?
Même pas. Après, si dans heroic fantasy, tu sous-entends un peu les mondes merveilleux avec les fées et les licornes.
Je pensais à Conan le Barbare.
C'est vrai que voilà, pour moi, l'heroic fantasy, voilà, on va plus être dans des univers bien médiévaux. Et voilà, donc... forcément
Elric, c'est pas très féminin quoi.
Après c'est vrai qu'on aborde la science-fiction, mais moi je suis une grande fan d'Elric, hein.
Non mais j'ai pas dit que c'était pas bien, mais c'est pas
et voilà,
c'est pas très représentatif d'une littérature féminine des personnages féminins forts.
C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de licornes dans Elric.
Ça manque d'ailleurs. On pourrait donner un peu plus.
Elle serait classe la licorne.
Et donc, j'évoquais à la fin de ma présentation la présence, l'apparition de premiers personnages féminins forts, entre guillemets, entre autres Rey dans Star Wars. Est-ce que vous pensez, au-delà de la qualité intrinsèque du film, parce qu'on a déjà discuté de ça, et c'est compliqué, mais est-ce que la présence des femmes va être pérenne, on va dire, au premier poste?
Si on reprend le personnage de Rey, il y a une tentative intéressante. C'est vrai que moi, pour avoir vu le premier film notamment, je me suis dit « Ah, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter avec cette fille ?» qui, justement, la première fois qu'on la voit, est très débrouillarde. On voit son quotidien, on la voit aussi face à une vieille femme qui fait exactement la même chose qu'elle, c'est-à-dire de nettoyer une pièce de machine. Et en fait, elle se projette dans cette femme en se disant, ben voilà, est-ce que finalement je vais pas devenir comme elle à la fin, voilà, est-ce que moi aussi je vais rester là et devenir comme elle. Cette image est intéressante, et en fait après elle se fait happer par l'histoire, par la quête, et elle quitte ce quotidien là et il y a beaucoup d'espoir là-dedans. Et après, malheureusement, ben elle reste un cliché, et en fait elle évolue pas du tout, et elle reste et moi, ce qui m'a même blessée, hein, en voyant l'évolution de cette trilogie, c'est de me dire, bah, finalement, bah voilà, elle a du courage, elle s'investit, et en réalité, ben non, elle a pas le droit à l'amour, quoi. Voilà. Donc si t'es une femme forte, bah t'as pas le droit. Donc tu vas rester comme ça, une machine, un robot. Pour moi, j'ai vraiment cru, même à la fin, qu'elle était, en fait, que c'était une machine, quoi. Ouais. On est dans la science-fiction, mais voilà, c'est un personnage qui m'a quand même, ouais, qui m'a pas mal déçue là-dessus, parce que je trouvais justement qu'il y avait, pour des petites filles ou des jeunes filles, on pouvait se projeter, il y avait la naissance d'un nouvel espoir, et puis bah non, en fait. Et c'est dommage d'être obligé. Moi, je l'ai vraiment vécu en me disant, bah finalement, c'est quoi la conclusion? C'est rester une petite fille et faire de la luge. en étant en fait dans l'ombre d'un homme, et l'ombre d'un homme, bah c'est pas du tout son amoureux en réalité, mais c'est l'ombre d'un homme, c'est Luke Skywalker, ou le fond son fantôme d'ailleurs. Et finalement, bah, j'ai trouvé que c'était pas si progressiste que ça.
Alors, moi, je suis un peu plus âgée que Florence, donc mes deux héroïnes quand j'étais ado, c'est Sigourney Weaver, ah, bien sûr, et Linda Hamilton.
Tu as d'ailleurs un cosplay.
Et je vais faire le cosplay d'Hélène Ripley, d'ailleurs. Mais non, pour moi, ça a été... Alors, il faut dire que je suis née en 70, donc vous voyez un petit peu le cinéma, ce que ça donnait, la place des femmes. C'était généralement la braillarde aux côtés du héros. Hein, souvenez-vous des Superman, Highlander. Enfin, j'ai revu Highlander il n'y a pas longtemps. C'est autant Christophe Lambert est dans son jus, et bien, ça n'a pas trop mal vieilli. Sean Connery aussi, mais alors là, celle qui joue l'inspectrice, là, elle passe son temps à hurler, quoi. Je me dis, mince. Et c'était la représentation de la femme forte à cette époque-là. Hein. C'était quoi, 84-85. Mais autrement, on avait, oui, Sigourney Weaver, Linda Hamilton, qui sont des personnages très forts. Et Linda Hamilton, à un moment, elle va défendre son fils. Hein. Elle a une fibre maternelle, elle est protectrice. Elle est
une mère louve, on peut dire.
Oui, mais bah, ce n'est pas parce qu'elle a un fils qu'elle devient mère au foyer, en train de se demander ce qu'on va manger ce soir. Même si on se pose tous la question là. Mais non, mais pour moi, c'est ça. Et j'avais déjà eu cette initiation. Alors, il y a la bande dessinée Yoko Tsuno. Alors, il y a à la fois qui est quand même assez SF en règle générale. Et c'est pareil, pour une petite fille, Yoko Tsuno, c'était génial. Hein.
Ouais.
C'était elle, l'héroïne. Elle prenait les décisions, elle se battait, elle était au premier plan. Donc,
elle prenait beaucoup d'initiatives.
Oui, et elle est diplômée, et, oui, elle est scientifique.
Intelligente.
Oui.
Et ça lui sert à quelque chose.
Oui, mais à chaque fois, elle utilise son cerveau.
Elle exploitait, voilà.
C'est pas juste une apparence, et c'est pas juste pour c'est pas juste pour faire de la vitrine.
Non, mais c'est une vraie héroïne avec l'épaisseur.
Tout à fait.
Voilà, et donc moi, c'est ce qui m'a aidé à me construire aussi, et c'est pour ça que c'est important pour les filles, quand elles se construisent, d'avoir comme ça des images fortes. Elles en ont besoin.
Moi, comme Charlotte, on n'a pas la même génération. Mon héroïne, ça a toujours été Ripley. Hein, Ripley, surtout dans le 2, où elle se révèle. Je suis devenue militaire, c'est peut-être un peu à cause d'elle. et puis, il y avait, là, je pense que Guillaume sera d'accord avec moi, Uhura.
Exactement, dans la première série Star Trek.
J'aime Star Trek depuis toujours, et l'image des femmes a évolué au cours des différentes séries.
Ça a été un vrai moteur, en fait, cette série, hein, pour l'émancipation de la femme, la représentation de la femme.
Place des femmes n'était pas forcément extraordinaire au début.
Non.
Même si j'adore cette série parce que voilà.
Non, mais on voyait à l'écran en fait une femme afro-américaine. Exactement. À bord de la passerelle Et les autres femmes, c'était...
Officier sur la passerelle.
Voilà, officier. Étant,
voilà, qui avait son charme, son charisme, sa force, et qui n'était pas, voilà, elle n'était pas là pour faire potiche, elle avait un vrai rôle.
Oui, et les autres, c'était l'infirmière Chapelle, je crois, et des autres représentations du féminin dans Star Trek, est vrai, étaient plus dans les stéréotypes, quoi, j'ai souvenir de certaines enseignes qu'il fallait venir sauver, ou alors on était dans la créature féminine.
Il fallait bien que Kirk puisse arracher sa chemise.
Voilà.
Mais bon, après ça a évolué et on arrive à Deep Space Nine, où là les femmes ont un vrai rôle, que ce soit Kiran Iris, qui est quand même une révolutionnaire, Dax, voilà, ce sont des qui met la pâtée au Klingon. Voilà, donc.
Exactement, oui.
Gene Roddenberry, auteur progressiste. En fait.
Oui, 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 on peut. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais.
Nickel. Anaïg, peut-être un héros féminin de la jeunesse qui initie un peu le mouvement.
Alors, moi, j'ai grandi vraiment avec les bandes dessinées. Mm-hmm. J'ai un père qui est un très, très grand collectionneur de bandes dessinées. Et comme ma petite camarade ici présente, j'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures sur les Yoko Tsuno.
Okay.
Beaucoup. Mais je pense que cette bande dessinée, elle a fait du bien à beaucoup de petites filles, vraiment, parce qu'on n'avait pas tant que ça d'héroïne. Et la deuxième héroïne avec laquelle j'ai passé énormément de temps et que j'ai redécouverte il y a quelques mois, c'est Laureline.
Ouais,
Valérian et Laureline, où j'ai dû lire absolument tous les volumes qui étaient sortis à l'époque et que j'ai relus. Alors, j'ai eu la chance de croiser M. Mézières quand il est venu à Landerneau, il y a presque un an et demi de ça. Vraiment une très grande chance. Et il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a marqué. Il nous a dit que quand il avait commencé à dessiner Valérian et Laureline, il avait trouvé tout de suite son visage. Et on voit bien effectivement dans les bandes dessinées que son visage ne change pas à Laureline, c'est toujours le même. Alors qu'il disait que Valérian, il n'arrivait pas forcément à savoir quelle tête il avait. Et ça se voit aussi dans la bande dessinée, on voit qu'il change un peu de visage, il n'est pas hyper figé.
Oui.
Et donc on sentait bien finalement que c'était aussi une manière de dire que c'était vraiment Laureline qui guidait, qui était moteur. Et c'est souvent le cas, d'ailleurs, dans la plupart des aventures. Donc, ces deux héroïnes-là, elles m'ont vraiment, vraiment poussée. J'en ai une troisième, à l'adolescence, qui n'était pas une héroïne de bande dessinée, mais une héroïne de roman, qui s'appelle Honor Harrington, que beaucoup ont dû lire. Donc, c'est du space opéra, de Weber. Moi, j'ai découvert ça au lycée. Tout début de lycée, et notre mot d'ordre à l'époque, c'était de dire que cette femme avait du caractère. C'était un peu, c'est une héroïne qui est extrêmement, extrêmement puissante, qui en même temps a aussi beaucoup de failles, et qui pour le coup était une belle héroïne, je trouve, à découvrir à 15 ans.
On aura une que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et je confirme, pour le premier volume en tout cas, c'est un personnage très fort.
C'est de la très bonne SF militaire. Et en plus, quand on commence à mettre le doigt dedans, moi, ça m'a enlevé quelques heures de sommeil. Hein, parce que toute la série des Honor Harrington, il y en a je ne sais pas combien. J'ai dû m'arrêter au sixième, je crois.
Il y en a beaucoup. Hein, y a
mais alors, à chaque fois, puis alors, juste avant la fin, la bataille finale, c'est impossible de poser le livre. Hein,
Bien, on s'approche gentiment de la fin de l'émission. Donc, je voulais vous remercier, mesdames et messieurs, d'être venus participer à cette émission. Qui sera diffusé
le 8 mars.
Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de Vous reprendrez un peu de science-fiction.